Chapitre 3. C'était bien des ruines, en effet, ces pensionnaires de Jeanne Jugan, ruines de toutes sortes et de toutes provenances. Les uns avaient toute leur vie misérée, les autres étaient déchus d'une petite aisance ou même d'une fortune. Les causes qui les avaient amenés là, dans cet abri où la charité se faisait aveugle pour les recevoir, variaient peu. C'était le malheur pour quelques-uns, l'inconduite pour beaucoup. Certains avaient usé 20 professions, couru l'Europe et l'Amérique, photographié des noces de boutiquiers à Paris, ramassé des escargots pour les restaurants, cueilli de la mousse pour les fleuristes dans les bois de Viroflay et lassé des bœufs sauvages dans les prairies de la Plata. Ils avaient essayé de tout, n'avaient pris pied nulle part et, traqués par la faim, ne s'étaient remisés chez les petites sœurs qu'avec l'espoir secret d'en sortir encore. Tous, ils vivaient de la vie commune, mais non pas de la même manière. Des rencontres de goûts et d'origines, des similitudes de métiers ou de souffrances même, les groupaient en petites compagnies pour la promenade ou le travail. Car on travaillait à l'hospice, au pour rire, à des travaux d'enfants qui, laissés aux caprices de chacun, ne duraient guère et ne rapportaient rien. D'aucuns, tisserant, dans une salle basse, poussaient la chasse une heure ou deux. Une demi-douzaine de tailleurs passaient des fils dans des déchirures d'habits déjà reprisés, des campagnards soignaient les vaches et le cheval, coupaient de l'herbe ou tressaient des paniers. Au beau temps, la fenaison réunissait les plus valides pendant 8 jours dans un petit pré. D'un bout de l'année à l'autre, ceux qui pouvaient tenir une bêche remuaient un demi-mètre de terre ou coupaient une mauvaise herbe dans un jardinet qui leur était concédé en propre et dont ils aménageaient la culture au gré de leur esprit, celui-ci en potager, celui-là en verger minuscule, l'autre en parterre fleuri. Il y avait aussi des paresseux incorrigibles ou des impotents qui ne faisaient rien. Autour d'eux, pour eux, la charité veillait, peinait et souriait. Afin qu'ils puissent se reposer pleinement, elle ne prenait pas de repos. On l'eût dite riche, tant elle trouvait de moyens d'être aimable et secourable. Sa patience n'avait presque point de limite. Elle pratiquait l'art ingrat d'être maternelle avec les vieux. Le Boloche eut rapidement son groupe. C'étaient tous les anciens soldats, épars jusque-là et flottant dans la population de l'hospice. L'éloquence du vieux sous-officier, sa prestance, l'éclat magique des galons dont il croyait voir le rayon d'or sur sa manche d'invalide, les avaient attirés là. Il l'écoutait volontiers. Au milieu d'eux, le Boloche retrouvait l'illusion de la caserne et du commandement. Bataillon très mêlé sans doute, où toutes les armes se confondaient et dont plusieurs dignitaires arrivaient des compagnies de discipline. Mais qu'importait, ils étaient du métier. On mettait les campagnes en commun. Chacun disait la sienne, souvent la même et jamais de la même façon. Ils avaient une manière à eux de parler de la guerre. Chacun n'avait vu qu'un petit coin du champ de bataille. Beaucoup étaient restés l'arme au pied une demi-journée sous la pluie des obus éclatants. Leur récit donnait une idée mesquine et tronquée des choses militaires. Ils s'y complaisaient pourtant et y revenaient sans cesse à propos d'un détail qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir dit. Les jours de sortie, ceux qui rentraient de la ville avec un journal lisaient aux autres des nouvelles merveilleuses. On s'échauffait à propos des armements prodigieux de la Russie ou de l'Allemagne, des fusils capables de percer des troncs de chêne de 50 cm, d'une poudre sans fumée, d'un bateau sous-marin, des expériences de torpilles. Les plus chauvins donnaient le ton, les vieux redevenaient jeunes, un ferment des anciennes fièvres glorieuses leur courait dans le sang. Alors c'était des défis à tous les peuples ennemis, des jurons d'amour pour la patrie française, des prédictions de victoire. Tous, ils voyaient l'armée victorieuse passant la frontière et se ruant sur les villages du Rhin. Ils croyaient en être, ils pillaient, ils tuaient, ils s'enivraient et s'endormaient dans les petits draps blancs des vaincus. Dans ces moments-là, le Boloche était superbe. Il les empoignait tous, avec sa voix encore frappée au timbre des alcools de cantine. Le pas s'accélérait, les cannes se levaient, les bras rhumatisants s'étendaient en avant. Pauvres bons hommes, leur cœur de troupier français n'avait pas vieilli. D'habitude, ils causaient de ces sujets passionnants autour du seigle, dont les épis commençaient à montrer le nez. et là-haut, sur la terrasse de l'hospice, quand une sœur passait, étonnée de tant d'animation, elle s'arrêtait un moment. D'un œil tranquille, elle suivait ses guerriers et les comptait, craignant toujours que le compte n'y fût pas. « Voilà nos petits vieux qui parlent de la guerre », pensait-elle. Le genre de plaisir qu'ils y prenaient lui était complètement étranger. Mais elle n'était pas fâchée de les voir si martiaux. Cela lui faisait l'impression que font aux mères les petits garçons qui jouent aux soldats de plomb tapageusement. Puis, satisfaite de son inspection, la cornette blanche s'en allait. Les petits vieux ne l'avaient pas aperçue. Le régime n'était pas dur. Le Boloche avouait même qu'il ne lui déplaisait point. Il avait l'illusion de l'activité et la réalité du repos. Ses compagnons donnaient pleine satisfaction à son goût de gloriole. Il mangeait bien, souffrait peu de la jambe, respirait 8 heures par jour l'air des collines que vivifiait le cours prochain d'une grande rivière, étendu et ramifié à l'infini dans la campagne verte, comme la nervure bleue d'une feuille de chardon. Et cependant, il dépérissait. Les rides creuses de ses joues se creusaient encore. Il avait des moments de mutisme et de sauvagerie auxquels les sœurs ne se trompaient pas. Sœur Dorothée avait essayé d'une ration supplémentaire de tabac, un moyen pourtant bien efficace. Le Boloche avait pris, remercié, fumé, il ne s'était pas ragaillardi. Peut-être qu'il voudrait voir sa femme plus souvent, avait songé la sœur. Et au lieu de 2 fois par semaine, le Boloche s'était rencontré chaque jour dans un corridor de l'hospice avec sa femme très bien habituée, elle, très douce et effacée, là comme ailleurs. Ils causaient un peu, mais ils n'avaient pas grand-chose à se dire, n'ayant jamais eu la même humeur et n'ayant plus la même vie. Le bonhomme ne revenait pas plus gai de ses visites de faveur. À force d'y songer, sœur Dorothée eut une inspiration. L'ayant aperçu, qui, au milieu de son parterre, le pied sur sa pelle, immobile, regardait obstinément la partie basse de la ville, les horizons voilés où les maisons, les rues, les jardins n'ont plus de forme arrêtée et ne sont plus que des nuances dans la gamme adoucie des lointains, elle devina sa pensée. « C'est votre fille qui vous manque ?» dit-elle. Le Boloche, qui n'avait pas vu la sœur, tressaillit à ce mot. Son vieux visage devint dur, ses yeux s'emplirent d'un feu sombre. Il n'aimait pas qu'on sût ses affaires, et la découverte d'un chagrin qu'il était trop fier pour confier à personne le blessait comme une indiscrétion. Mais bientôt, l'émotion que ce nom lui avait causée, votre fille, fut la plus forte. Il ne fut point maître de s'y abandonner, elle l'emporta tout entier, elle le changea. Ses traits se détendirent, et humblement, doucement, du ton où perçait l'aveu de sa longue souffrance, il répondit « C'est vrai. » « Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?» reprit la sœur. « Depuis 5 semaines que vous êtes ici, vous ne l'avez pas vue ?»« Non. »« Voulez-vous que je lui écrive de venir ?»« Oh oui !»« Vous l'aimez bien, cette désirée ?» Il n'eut pas la force de répondre. Ses mains tremblaient sur le manche de sa pelle et ses yeux qu'il avait détournés voyaient sans doute en songe, debout dans l'herbe du pré, l'enfant qui venait à lui. Le soir, quand sœur Dorothée demanda à la supérieure la permission d'écrire, elle ajouta « Ce petit vieux est incroyable, on dirait que c'est lui qui est la mère !» Et, ayant couvert une feuille de papier d'une écriture inégale et hâtive, elle la mit à la poste, à l'adresse de Désirée.